Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présentée par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au focoff.com.
Anne-Laurie Didaté, âge inconnu, Vadsø, Norvège, 16 février 1621. Accusée de pratiquer la sorcellerie, a été soumise à l'épreuve de l'eau, hors d'Ali, et a flotté. Jugée coupable de pratiquer la sorcellerie, condamnée à la mort par le feu sur le bûcher.
Premier acte, en collaboration avec le Moi Multi présente, Féminicide, une histoire mondiale. Une production du Théâtre d'Olympie, d'après l'ouvrage dirigé par Christelle Tarot, du 27 janvier au 7 février 2026. Pour les billets, visitez premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le Centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le Centre Hub Créatif. Le Centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Il est 4 heures.
Et 47 secondes exactement, et vous êtes à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel alternatif ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui à l'émission, on a vraiment une belle brochette d'invités. On va commencer avec une entrevue avec Claire Gauthier, qui est la directrice générale du Centre d'artistes en arts actuel Regard. On va parler plus précisément de l'initiative Oser les arts visuels, qui invite le public à parcourir un circuit d'exposition en arts visuels et en métier d'art. C'est 15 organismes qui se sont ralliés dans cette initiative. Fait qu'on va en parler plus longuement ensemble. Par la suite, à 16h30, on va recevoir le projet Indie Wave Thunderloom dans le cadre des entrevues locales en collaboration avec le Focoff. Et ceux-ci vont même faire une performance acoustique en direct du studio. Et par la suite, à 17h, on va parler du forum sur la radicalité des luttes organisé par l'AESS. Ça a lieu du 29 au 31 janvier 2026. Alors, tel qu'annoncé, je suis très heureuse d'avoir avec moi à l'autre bout du fil Claire Gauthier, qui est directrice générale du Centre d'artistes en art actuel Regard. Allô, allô!
Allô, ça va bien?
Ça va super bien. Merci de m'accorder cette entrevue. Alors, Regard vient de consigner avec 14 autres partenaires l'initiative Oser les arts visuels, qui invite le public à parcourir un circuit d'exposition en art visuel et métiers d'art à Québec et à Lévis et dans d'autres lieux aussi dans les 12 prochains mois, donc durant toute l'année 2026. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet? Comment est-ce que Regard a été impliqué dans cette initiative?
Ben oui, avec plaisir. Alors, pour la genèse, la petite histoire. En fait, il y a un organisme qui s'appelle Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. C'est un organisme qui regroupe plusieurs organismes professionnels en art dans toutes sortes de disciplines. Mais il y a la table des arts visuels. Donc, c'est des partenaires, des membres de cette table-là qui ont décidé de se regrouper ensemble pour faire un lancement de programmation. À travers les partenaires, donc on est une quinzaine là, de partenaires qui ont décidé de se joindre à cette initiative-là, il y a des petits puis il y a des gros joueurs dans la diffusion des arts visuels, donc autant comme Regard, c'est un centre d'artistes, on n'est pas un énorme centre, puis il y a le Musée national des beaux-arts qui est quand même pas mal gros. Donc, on est vraiment de différentes envergures. Puis cette réunion d'organismes-là permet de faire un lancement un peu plus significatif puis d'avoir un plus gros rayonnement finalement médiatique et d'annoncer toute notre programmation. Et voilà.
Puis quel est justement, je trouve que c'est quelque chose de très puissant de s'unir comme ça avec plein d'autres organismes qui ont une même mission puis une vision justement de diffusion des arts visuels et des métiers d'art. C'est quoi l'objectif de ce circuit d'exposition?
Ben en fait, c'est qu'on veut faire ressortir la richesse de nos programmations respectives, puis c'est ça. Donc inviter vraiment le public à venir visiter et rencontrer les artistes locaux, parce que et même internationaux en fait, parce que ça dépend là, des fois on a vraiment toutes sortes d'artistes. Puis on veut vraiment faire ressortir cette richesse là. La plupart des expositions sont gratuites, donc c'est vraiment important de le mettre de l'avant. Puis souvent, ben, tu sais, les gens, ils savent pas trop comment à nous appréhender. Alors voilà, c'est un peu un guide de sortie, inviter les gens à faire un circuit de visite tout au long de l'année. Et bon, chaque partenaire choisissait une exposition, un projet en particulier qu'il voulait proposer pour faire la programmation, parce qu'évidemment, si tout le monde met toutes ces 5-6 expositions, ça venait un peu trop intense. Fait qu'on fait chacun une proposition. Après ça, libre à chacun de tu sais, n'importe qui peut aller fouiller un organisme puis aller en voir plusieurs, là. Ça, c'est tout à fait permis.
100%. Puis justement, Regard a choisi l'exposition Synergie des vagues, qui est le titre provisoire de cette exposition, présentée du 1er au 31 mai 2026. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition? Puis qu'est-ce qui vous a amené à choisir celle-ci en particulier?
Oui, ça, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce que, premièrement, c'est une collaboration entre deux organismes de Chaudière-Appalaches. Donc, nous, on est un diffuseur, puis notre partenaire, c'est Est-Nord-Est, qui fait des résidences d'artistes autant locales qu'internationales, là, donc à différents niveaux. Et donc, on est les deux installés en Chaudière-Appalaches. Et là, on a décidé de joindre nos efforts, en fait, nos ressources pour pouvoir soutenir la Confédération Wabanaki. Donc, sous le commissariat de Ivani Aubin-Malo, qui est une artiste pluridisciplinaire installée à Lillet, donc en Chaudière-Appalaches, il y a plusieurs artistes, pas loin d'une vingtaine d'artistes autochtones là, qui se sont rassemblés à Est-Nord-Est pour, en fait, reprendre un peu leurs droits sur... Ben pas sur le territoire, je dirais. Ben oui, là, ben, donc ils se sont réunis puis ils se sont mis à créer. Et donc, le résultat de cette résidence-là va être présenté dans le cadre d'une exposition collective à Regard du 1er au 31 mai. Donc, on trouvait ça vraiment pertinent de mettre de l'avant ce travail-là. La Confédération Wabanaki, bien évidemment, on se retrouve sur leur territoire ancestral, mais ça va, oui, en Chaudière-Appalaches, mais ça va aussi jusqu'au Nouveau-Brunswick puis jusqu'au Maine. Donc, c'est vraiment un très grand territoire et on est vraiment honoré d'avoir des artistes là, qui vont venir à peu près les quatre coins de ce grand territoire-là.
Est-ce que vous savez combien d'artistes vont faire partie de cette exposition?
Pour l'instant, on est à 5, même s'il y en a plusieurs là, qui sont présentés. Mais c'est encore en mouvement. Donc là, pour l'instant, je peux pas donner tant de détails parce que c'est vraiment un projet qui est en construction, mais ça va être vraiment super.
Définitivement. Puis je trouve justement que le fait que ça soit une exposition collective, ben ça ramène à un peu l'objectif là du circuit en art visuel osé, qui est justement ben un circuit collectif où on présente dans différents lieux de diffusion, dans différentes galeries, plein d'expositions et d'artistes aussi qui font partie du portrait des arts visuels et médiatiques de la ville de Québec et des environs. Comme on l'a dit, tu l'as nommé un peu plus tôt, tu sais, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui participe, Engram, le MNBAC, Ex-Muro, Folie Culture, je les nommerai pas toutes, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis Regard, mais tu l'as dit aussi un peu plus tôt, que Regard met un point d'honneur à offrir des expositions puis des activités qui sont gratuites à son public dans le but justement de contribuer positivement à sa collectivité en rendant les arts accessibles. Quelles sont les retombées que vous souhaitez le plus suite à Oser les arts vivants?
Ben en fait, le but, c'est vraiment que les gens ils sachent qu'on existe parce que c'est une des difficultés qu'on rencontre, nous, les petits organismes, c'est qu'on a de la misère un peu à être visible, puis les gens, on veut être connus, parce que le travail qu'on fait, c'est présenter le travail des artistes. C'est des artistes, c'est ça travaille sur le terrain, c'est notre sensibilité, c'est nos réflexions, c'est nos sujets d'actualité. Donc, c'est tout ça qui est reflété dans nos galeries. C'est vraiment proche des préoccupations des gens. Souvent, peut-être qu'on l'oublie un peu. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite qui arrive, c'est que les gens nous connaissent, qu'ils viennent nous visiter, puis que ça permette d'éveiller des réflexions, des discussions, de permettre des échanges, créer du lien entre plein de sujets, des gens. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est créer une effervescence autour de nos différents projets.
Justement, il y a deux porte-paroles officielles de Oser les arts visuels. L'une d'entre elles, c'est l'artiste visuel et la céramiste lévisienne Amélie Proux. Il y a aussi Martin Bureau, qui est artiste multidisciplinaire de Québec, qui sont les deux porte-paroles de l'édition 2026. Puis ça, je trouvais ça un beau clin d'œil aussi qu'il y a une artiste visuelle de Lévis qui fasse partie des porte-paroles.
Oui, ben c'est vraiment, on est vraiment choyés. C'est deux super bons, ben des belles personnes puis des bons artistes là de haut niveau. Et ils ont eu la chance de s'exprimer lors d'un événement qu'on a eu le 20 janvier. Donc c'était un 5 à 7 de lancement de la programmation justement que ça se passait à Ex-Muro. Et ils se sont exprimés là sur le rôle de l'artiste, le travail de l'artiste. On peut trouver un peu d'informations sur justement leurs textes respectifs là sur ose.media. Donc c'est là où est-ce qu'on peut rassembler toute l'information là, du projet. Mais donc effectivement là, ils mettent de l'avant, c'est tout l'avantage puis la pertinence d'être en contact avec les arts visuels puis les métiers d'art là.
Je vous invite, c'est vraiment un texte qui est super intéressant et touchant. Vous pouvez aller, comme tu l'as bien dit, sur ose.media, oser les arts visuels, pour avoir toutes les informations, toutes les expositions aussi qui en font partie, puis vraiment découvrir l'ensemble du circuit 2026 de oser les arts visuels. À regard, la dernière exposition qui a eu lieu, on l'avait reçue ici à Chérie J'arrive, c'était Maxime Sauvage avec l'exposition, mais aussi leur performance Espérer faire tempête. Quels sont les projets à venir chez Regard?
Ben, grosse nouvelle, c'est notre année anniversaire, 40e anniversaire. Donc là, on prépare des projets bien spéciaux pour l'été et l'automne. Donc, on va inviter spécifiquement pour cet été-là, on va inviter des artistes membres, une espèce de pluralité de pratiques à travers les membres de Regard. Ils vont devoir créer l'exposition qui va avoir lieu cet été en environ 2 semaines. Donc, c'est vraiment une création collective. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais il va y avoir des lignes directrices. Puis c'est vraiment, on veut faire un retour aux sources où est-ce que à l'époque, il y a 40 ans, c'était un collectif qui créait les événements. Donc, c'est un peu cette énergie-là qu'on veut retourner chercher. Alors, on tombe dans le Lab 40 qu'on appelle, genre son petit nom de travail. Puis, à l'automne, ben là, ça va être une exposition collective qui va retracer des artistes des 4 dernières décennies. Donc, ça aussi, c'est un beau projet en travail. Mais sinon, plus rapidement, on a notre projet qui est dans le cadre de Manif d'art, qui va être lancé le 27 février prochain. Nous, on reçoit Raquel Rowe, qui est une artiste internationale qui habite présentement à Ottawa, mais originaire de la Barbade. Et ça va être une installation numérique avec des projections. Donc, ça va être complètement différent de ce qui s'est passé avec Maxime Sauvage, qui était, lui, vraiment, qui était présent à tous les jours à la galerie pour faire son travail. Là, ça va être une totale différente approche artistique.
Puis ça, je trouve que justement, ces deux expositions puis ces deux approches-là qui sont super différentes, bien, démontrent aussi la diversité des voix que vous présentez chez vous à Regard, et d'où l'importance de venir découvrir tout le travail des artistes visuels, de venir s'imprégner de leurs œuvres et de leurs réflexions. Je vous invite, je vous souhaite vraiment en 2026, chers auditeurs, auditrices, d'aller découvrir autant les petites galeries, les petits lieux de diffusion qui ont plein de potentiel et plein de belles surprises à vous faire découvrir. Merci grandement, ma chère Claire, directrice générale du Centre d'artistes en art actuel Regard. Si on veut suivre toute l'actualité du Centre Regard, où est-ce qu'on peut retrouver toute l'information?
Alors, sur notre site Internet, www.centreregard.org, et sinon sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Donc, voilà, c'est une invitation. Suivez-nous. Sinon, vous pouvez juste vous présenter du jeudi au dimanche, en après-midi, dans le fabuleux espace bucolique derrière le traversier. Donc, c'est la meilleure vue, en plus, du château Frontenac. Là.
Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Merci à toi, Claire.
Ça me fait plaisir. Bye-bye.
Et je vous invite également à aller découvrir le parcours de Oser les arts visuels, une invitation à découvrir tout au long de l'année une multitude de lieux d'exposition et d'expériences artistiques pour voir l'ensemble justement du répertoire. Vous pouvez aller sur ose.media / Oser les arts visuels et il y a toute l'information sur le site. Et ensemble, on va... Hier, j'ai trop parlé, hein? Donc on va... Mais non, j'ai pas trop parlé, mais j'ai eu moins le temps de vous présenter des nouveautés musicales. Alors, on va prendre un peu plus le temps aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec le duo Veranda. Veranda, qui est un groupe de country et de bluegrass basé à Montréal. Ceux-ci viennent tout juste de sortir un nouvel album. Ça l'a paru en le 16 janvier dernier. Et ben, j'ai envie qu'on écoute ensemble une chanson de cet nouvel album. Ben, alors voilà, on va écouter la chanson « J'entends ton nom » de Veranda. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur le zone de Chérie 94.3.
J'entends ta voix en...
C'était « Pas besoin de se mentir ». Et oui. « Pas besoin de se mentir » de Maud Audet. Nouveau single de cette autrice, compositrice, interprète qui est impliquée dans tous les aspects de son art. On la reconnaît en un son folk flottant avec entre le contemporain et le vintage, inspiré par la vie et ses sentiments. Et avec « Pas besoin de se mentir », Maud signe vraiment un retour aux sources. C'est le deuxième extrait de son sixième album qui est à paraître au printemps 2026, et ce nouveau single est sorti le 23 janvier dernier. On va poursuivre encore en nouveauté. C'est une petite nouveauté d'hier. C'est le projet Sun Glacier qui a sorti une nouvelle chanson. Ça s'appelle Eye to Eye. Voilà. Puis si vous connaissez pas Sun Glacier, c'est un projet post-punk de Calgary. Alors voilà, on écoute ça ensemble ici à Chérie J'arrive sur le zone de Chiz 94.3.
Yeah.
C'était Eye to Eye de Sun Glacier. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Et on va poursuivre encore en nouveauté avec une nouveauté qui est sortie aujourd'hui et qui annonce également nos invités du jour. C'est Thunderloom qui est de retour avec la chanson Maslow Chore. On va les recevoir également à 16h30 en entrevue dans le cadre des entrevues locales en collaboration avec le Fuck Off. Puis pour vrai, super super belle chanson, vraiment, je pense que vous allez adorer. Tout autant que moi, on va l'écouter ensemble ici à Chérie J'arrive sur le zone de Chiz 94.3.
It's hard to process a crime out of care. Can wait for recess. Look at my hands, they move on their own. Try and compose a place I call home. Start to the point, I can feel in my core it's boiling. Geology, sand to earth, temperature is rising.
Hard to make your life worth living in a world of obligations. Money thinking, what a suffering. Shut down till I find an option.
An notion of voices in your head, they are the Maslow choir. Above all the folly that lies ahead, creation sings to go further. Friends. Talk with them before they take the lead. Sure, I can blame the whole world. Systemic endeavor, true that it's cruel. It's been said, but really you build your own hell. Where is my will? My hands are at loss. It's up in the hill, it's stuck in the moss. Inspiration, I stand by the sea, waiting the ways for a remedy. Sense of the self, fragmenting, cognition expanding. Psychology must be nice, having a brain unsteady.
Hard to make your life worth living in a world of contradictions. Trust your guts, but cut the feeling. Drain the flow to keep your motion.
A notion of voices in your head, they are the Maslow choir. Above all the folly that lies ahead, creation seems to go further.
Extérieur, le tir. La marque, ah! Franchise 94.3, la radio des champions à Québec.
Vous aimez découvrir de nouvelles niches musicales et sortir de votre zone de confort? La Lézarde vous invite dans son repère sonore, une émission de radio dédiée aux découvertes musicales inusitées, rafraîchissantes et audacieuses. Votre hôte Kim Rose Marlowe vous attend les lundis à 11h avec un contenu éclectique et surprenant. La Lézarde, c'est sur Chiz 94.3.
Les nostalgiques se souviendront des compilations Punkorama qui mettent en lumière des groupes de punk, rock, ska, metal, emo, screamo et hardcore, et bien d'autres. Nous en inspirons tout en valorisant la scène locale. De plus, une semaine sur deux, notre programmation est entièrement féminine. Manquez pas ça, Punkorama sur les ondes de Chiz, les vendredis de 11h à midi.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, arts visuels et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but!
Ce mercredi 28 janvier, les Remparts de Québec visitent les Tigres de Victoriaville à 19h sur nos ondes. Rejoignez Rick Loutier pour l'avant-match dès 18h45. Remparts, Tigres, mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chéri, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3 et je suis très heureuse d'avoir avec moi en studio Charles et Alinoé du projet Indie Wave Thunderloom. Salut, salut!
Allô!
Salut!
Alors, c'est un projet qui existe, Thunderloom, depuis quand même quelques années, depuis 2017 pour être exact. Et là, vous avez comme annoncé un peu un retour dans le cadre du Focoff, en annonçant justement à votre présence dans le cadre des vitrines. Est-ce qu'on peut... Moi, j'aime toujours revenir un peu dans le passé, là, revenir à la genèse du projet, puis comment est-ce que vous êtes rencontrés, puis comment est-ce que le projet a commencé?
On s'est rencontrés au Cégep Sainte-Foy. On était tous les deux en double deck musique et sciences. Puis pendant les périodes de midi, on était un groupe qui pratiquait souvent dans les locaux, genre les locaux de pratique au caso.
Ouais, ouais, ouais.
Puis à force de pratiquer avec du monde, je pense qu'on a un peu distillé les personnes avec qui ça marchait. Puis au final, on s'est retrouvé avec Charles à pratiquer à deux très, très souvent. Puis juste, j'ai partagé le fait que j'avais le désir de monter un projet. Charles était down aussi. Puis on a juste commencé automatiquement à faire un genre de prototype de tune.
Ouais, ben ça a comme cliqué musicalement. Un de mes objectifs en allant étudier en musique, c'était justement de monter un groupe, fait que ça a bien donné.
C'est exactement ce qui est arrivé. Puis vous avez différentes influences aussi, tu sais, autant dans la dream pop, indie rock, indie wave aussi, que je trouve un terme qu'on entend moins parler ici à Québec, je trouve. Vous avez été moins actif à la suite de la sortie de votre deuxième album, Café in Time of Disbelief, qui est sorti en 2022, qui a été écrit et réalisé pendant la pandémie. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cheminement que vous avez fait depuis l'annonce de votre présence au Focoff cette année, puis la sortie de votre nouveau single qu'on a pu entendre un peu plus tôt à l'émission aujourd'hui?
Ouais, ben si on revient en arrière, après la sortie du deuxième album, c'est comme si on avait mis toute notre énergie pour le produire, puis qu'on n'en avait plus pour en faire la promotion, finalement. Fait qu'on en a comme pris une petite pause après. Ali est parti au Japon 3 mois. Après, on a recommencé à créer tranquillement, pas vite, mais il faut aussi dire que le EP qu'on va sortir ce printemps, on l'a pratiquement tout réenregistré. On avait été en région, on avait loué un petit chalet fin 2023, les tunes étaient déjà faites, puis on a enregistré le drum, la bass, la voix, puis on s'est rendu compte que captation n'était pas d'assez bonne qualité pour faire un mix, un bon mix avec. Fait qu'on a tout recommencé du début, presque.
Et je pense que ça décrit bien un peu aussi la structure qu'on avait. Je pense qu'on était très désorganisé d'une manière générale. On était souvent en mode, en berserk mode, où est-ce que, OK, on impulsion, on veut créer, on veut louer un studio. OK, bon, on n'a pas vraiment d'organisation financière, on n'a pas vraiment d'échéancier, mais c'est pas grave, le désir est là, fait que le désir va vaincre, le désir de créer, etc. Mais pour se rendre compte qu'au final, c'est chouette d'avoir une impulsion créative, c'est chouette d'avoir le désir, puis d'être en mesure de faire la musique par nous-mêmes. Mais le fait de ne pas avoir de structure interne, si tu veux, avec le projet, a fait en sorte que ça donnait ce genre d'épisode où est-ce qu'on se dit « OK, go, on a des idées, on va créer dans un chalet en région, cool. » Mais là, justement, il y a soit un manque de technique de notre part ou un manque de préparation, ce qui fait en sorte que ben, on a comme jamais de backup, on y va tout le temps en mode impulsif. Puis je pense que c'était le désir dans les dernières années, le fait de s'être reculé aussi puis d'avoir pris le temps, autant dans la structure interne entre nous, donc les membres du groupe, mais avec l'extérieur aussi, comment créer une image, comment avoir une organisation, comment pouvoir présenter quelque chose de qualité. C'est la raison principale pour laquelle on était un peu en mode shinobi. On était dans l'ombre, puis on créait justement, on s'organisait.
Mm-hmm. Ben, puis je pense à cette chose, ça fait vraiment écho à le après pandémie aussi. Mm. On a entendu plusieurs albums dans les dernières années qui sont un peu des résultats de la COVID, là, devrais-je dire, mm-hmm. de ces moments comme créatifs là, plus introspectifs, puis tu sais, il y a tout cela se sent encore aussi aujourd'hui. Puis je pense que ça l'a peut-être permis à plusieurs artistes de comme, on parlait de tout juste avant de rentrer en onde, que il y a comme une période un peu de transition entre 2022 et 2023 des artistes qu'on a comme un peu perdu de vue pendant quelques années, qu'on a quasiment pas vu non plus sur les réseaux sociaux, puis qui là on réentend parler comme vous en 2026. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que cela ça s'explique selon vous?
Ben, je pense qu'il y avait peut-être ce côté-là au niveau, si je peux me permettre, du côté des artistes avec un grand A. Mm. Je pense qu'il y avait peut-être ce côté-là justement de mode survie pendant la pandémie. Donc le fait d'être encore une fois en mesure de créer par nous-mêmes ou d'être capable de se mettre dans un monde qui n'est pas accessible à tout le monde par rapport à la création, ben, le fait de se mettre corps et âme dedans, ça a peut-être créé une forme de trop de choses, un genre je perds mes mots, mais un genre de surplein, justement, le fait d'être trop tout le temps avec soi-même dans ce côté-là de création, d'être trop seul, puis même si justement ça permet un aspect créatif, mais il y avait peut-être justement un genre d'une écœurantite face au fait de tout le temps être en mode création, tout le temps être face à soi-même, tout le temps être dans son bureau, tout le temps être dans son studio. Fait que oui, c'est chouette encore une fois de créer, mais peut-être qu'il y avait ce côté-là justement de déséquilibre par rapport au monde extérieur ou autre. Puis ben, je pense que plusieurs autres personnes sont peut-être allées voir ailleurs, allées faire des voyages, allées justement s'ouvrir les yeux ailleurs.
Oui, et puis de se reconnecter justement à la collectivité, tu sais, puis aux autres qui nous entourent, tu sais, dans n'importe quel. Tu sais, il y a beaucoup de projets artistiques qui sont très. Même si on a un groupe où on collabore avec des gens, il y a une partie, comme tu l'as dit, qui est très individuelle. On est toute seule dans sa bulle, dans son studio, avec son chevalet pour dessiner. Je sais, Alinoé, que tu dessines aussi. Fait que, c'est comme ce côté-là qui est très solitaire, mais au final, quand on crée, ben il y a quelque chose de très de communauté, justement, et qu'au final, même un projet solo, ben t'es jamais vraiment tout seul, au final.
Oui, mais c'est ça. Des fois, on dirait qu'on a comme de la facilité à créer des nouvelles tunes, mais tout le processus pour les rendre d'assez bonne qualité pour les partager puis les publier, c'est là que le vrai travail se trouve, j'ai l'impression, parce que la création, ça vient tout seul, dans un sens.
Oui, c'est plus loin. Puis il y a tout cet aspect-là aussi que de performance dans le milieu des arts aussi, de comme avoir un son vraiment, tu sais, comme à la hauteur de nos attentes, mais aussi à la hauteur de l'industrie puis de ce que les gens peuvent s'attendre. Fait que c'est quand même beaucoup de pression qu'on peut se mettre là, sur soi aussi par rapport à ça.
Oui, exact.
Absolument. Puis ça fait en sorte que justement tu rentres un peu dans une boucle de perfection où est-ce que tu veux toujours atteindre un résultat, que ce soit un son que tu as en tête ou justement une forme de chanson que tu vas atteindre, mais ça fait en sorte que soit tu termines jamais tes projets ou tu te brûles, puis après mélange ça au fait d'être plus seul, donc ça peut donner une bonne idée du pourquoi est-ce que les personnes ont pris un peu de distance peut-être.
Ouais, à un moment donné, il faut que tu décides, OK, on arrête de retravailler dessus, puis on lance ça dans l'univers.
Puis avec Thunderloom, Thunderloom a pour essence de contribuer à l'évolution musicale tout en incitant à une réflexion introspective auprès de votre public. Puis la nouvelle chanson que vous venez tout juste de sortir nous amène directement dans la mission que vous avez, justement, en tant que groupe. Justement, vous avez partagé, Inuit aussi, en plus d'être musicien, t'es artiste visuel, puis vous avez présenté quelques images inspirées de la pyramide des besoins, a.k.a. la pyramide de Maslow, qui fait écho à la nouvelle chanson également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce nouveau single-là, puis qu'est-ce que cette première chanson nous dévoile sur les réflexions puis les introspections de Thunderloom?
Bien sûr. Je pense qu'en premier, c'est une des chansons qui nous a rapprochés après la pause qu'on a pris après l'album aussi. On a comme eu un hiatus de plusieurs mois par rapport aux pratiques, par rapport à des contacts. Puis quand on s'est retrouvés, quand on a recommencé des mois après la sortie du deuxième album, quand on a recommencé à travailler ensemble puis à se revoir pour des jams ou pour des pratiques, c'est la pièce qui a comme concrétisé le fait que même si on veut se distancer de la musique, même si on veut justement se concentrer sur les choses plus concrètes, oui, la stabilité financière, oui, le fait de se créer un cercle autour de nous, oui, le fait d'être stable, si tu veux, d'une manière générale, il y a quelque chose, dans notre cas du moins, de plus fort qui fait en sorte que ça clique. Puis c'est vrai aussi avec les gars avec qui on joue, donc j'aimerais juste saluer Matt Morin puis François Gabriel. Donc, il y a quelque chose de plus fort sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle. Puis la présentation de la pièce de Maslow, ben oui, c'est de présenter un peu l'obligation de faire attention à cette genre de hiérarchie de besoins. Mais tout en haut, il y a comme quelque chose de plus fort qui est inexplicable ou juste qui arrive, qui happens. Genre. Et puis ça fait juste... Ça fait en sorte qu'on crée de la musique. Donc, voilà.
Mais ça parle d'un besoin de créer à travers toutes les autres besoins naturels, corporels qu'on a, ben c'est pas comme ça pour tout le monde, mais nous, on a cette espèce d'impulsion créative qui doit sortir.
Ça contribue à votre bien-être puis à votre, comme, tu sais, au bien-être de la santé mentale, physique.
Ben absolument, mais c'est comme de reconnaître en premier que oui, ben on prend la pyramide de Maslow parce que c'est pratique, c'est une structure qui a été faite, c'est chouette comme concept. Puis ça permet, bon, d'imager avec des personnages puis de rendre ça un peu plus, justement, théâtral, entre guillemets. Mais c'est de reconnaître, justement, ces besoins qui sont présentés, mais de reconnaître aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui, ben, est pas présent sur cette pyramide, puis nous alimente aussi.
Ouais, qu'on peut s'en faire, ben, tout dépendant de qui on est puis de notre individualité. T'sais, on a tous nos besoins de base, mais après, ben, en fonction de qui on est, puis ben, y a d'autres besoins qui peuvent faire partie de notre base, définitivement. Puis est-ce que... Je pense qu'il y a des liens à faire entre justement cette pyramide des besoins-là, puis un peu la pression qu'on peut avoir dans l'industrie de la musique.
Mais je pense que le monde arrête de faire de la musique ou de l'art pour subvenir à ces besoins-là. Donc, le fait de mettre des projets artistiques de côté pour avoir de l'argent, pour manger, tout simplement. Ce qui fait en sorte que justement, il y a une réalité, comme plusieurs réalités à check avant de pouvoir atteindre le côté plus plaisant de la création ou du fait de pouvoir mettre du temps dans la création. Fait que ça crée beaucoup de paradoxes. Puis je pense que cet album-là, ce EP-là, justement, va sortir au printemps, donc en avril, si tout se passe bien. Je pense que paradoxe est un beau mot pour définir les pièces ou les thèmes qui y figurent.
Ah ouais, définitivement, très bien dit. Puis depuis le début, Thunderloom, vous naviguez à contre-courant des tendances plus populaires. C'est quoi les défis auxquels des projets un peu DIY comme le vôtre font face, peut-être plus précisément même ici à Québec?
Oui, ben c'est sûr qu'on aime ça, être à contre-courant, aller dans des directions qu'on ne s'y attend pas. Mettons... L'album d'avant était très new wave, indie wave, justement, puis avec les tendances électro actuellement et tout ça, on voulait aller ailleurs. Donc le EP qui s'apprête à sortir a une influence plus folk. Moi, je qualifie ça de folk rock prog.
Fair enough.
Ouais, c'est dur de mettre des étiquettes sur comme toutes les influences qu'on peut avoir, tu sais, musicalement, puis...
Ouais, quand même. Mais après ça, à Québec, c'est un beau milieu. C'est que il y a des gens qui font des recherches, qui suivent qu'est-ce qui sort dans l'industrie. Puis, mais c'est un petit milieu. Puis une fois que tu as comme rejoint ce public-là, c'est plus dur d'en sortir, d'aller chercher des gens qui ils ont peut-être moins tendance à faire des recherches eux-mêmes, à s'intéresser à ça.
Ouais, puis on fait plus les recherches de la musique de la même manière, tu sais. Puis, tu sais, avec toutes les, justement, les plateformes de streaming, tu sais, on prend plus le temps de. Il y a plein de méthodes de recherche de notre musique, tu sais, qu'on le fait plus de manière intuitive, mais qui nous est un peu plus imposée, tu sais, avec comme un peu la culture du single, des réseaux sociaux, pour pas en nommer, pour pas toutes les nommer, tu sais, ou qu'on nous met de l'avant, justement, des extraits, puis on. OK, on pense que c'est.
TikTok.
C'est ça qu'on est, TikTok, tu sais, mais finalement, ben. On se rend compte que on développe pas notre désir critique de hey, c'est qu'est-ce que j'aime moi fondamentalement, et non pas qu'est-ce que les réseaux sociaux m'imposent comme musique. Puis finalement, vous comprenez un peu la différence.
Mais même à Québec, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient aimer notre musique, mais qui sont pas en contact avec. Puis là, je nommerai pas de nom, là,
mais
beaucoup de les radios plus commerciales qui mettent la chanson anglophone qui passe à ces postes-là, c'est juste des hits puis des grosses tunes pour capter l'auditeur puis être sûr et certain. Puis
des fois, on prend pas de risque, genre.
Non, c'est ça. Ouais. Puis j'écoute des postes des fois, puis c'est comme du vieux rock 80, 90, 2000.
On est très nostalgique à Québec.
Puis je suis comme, c'est bon, mais je pense qu'il y a des gens parmi qui écoutent ça qui pourraient aimer notre musique, mais puis de la musique de plein d'autres gens aussi au Québec. Mais ils la font pas jouer parce que c'est ça, il y a un risque à prendre là-dedans.
Définitivement.
C'est dommage.
Définitivement. Puis tu sais, justement, Sunderoom, vous écrivez en anglais, la majorité des chansons. Qu'est-ce que, justement, cette langue-là vous permet d'exprimer? Je trouve ça toujours intéressant comme ce que les différentes langues nous permettent d'exprimer, puis la poésie qui ressort de toutes les différentes langues.
Je pense que c'est en deux temps. En premier, personnellement, je pense qu'il y a l'habitude d'avoir écouté de la musique en anglais plus que francophone, qui est juste un fait, donc un automatisme, un conditionnement qui se fait. Mais depuis justement le deuxième album, il y a clairement un intérêt qui revient ou qui se présente par rapport au fait de chanter en français. Puis sur le EP, justement, il y a du français aussi. C'est pas qu'on oublie ou qu'on laisse de côté le français. C'est juste qu'il y a une certaine... l'anglais a une certaine façon de couler qui, personnellement, me convient et m'est beaucoup plus facile par rapport à l'écriture. Il y a clairement une question d'habitude, donc je vois que ça devient de plus en plus facile, en guillemets, d'écrire en français, de par le fait que tu répètes le mouvement, tu te reconditionnes à parler la langue, justement. Mais il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant avec les syllabes anglaises, juste comment est-ce que les mots se forment, le rythme des mots. Écoute,
il y a une poésie différente là, autant en anglais qu'en français. Puis dans la nouvelle chanson, il y a vraiment un moment où, comme dans comment on, non, j'ai tombé un blanc, mais je vais nommer les paroles. Ça m'a vraiment là, pris vraiment au trip. Là, mais dans la nouvelle chanson, vous dites "How to make your life worth living in a world of contradiction. Trust your guts, but cut the feeling." Puis j'étais comme ouf, genre ça hit vraiment, genre. Puis je trouve que les différentes nuances musicales donnent un peu comme pas juste les paroles, mais aussi musicalement, je trouve que ça l'amène dans une introspection, puis dans comment à se reconnecter, genre à ce qu'on sent, puis comment qu'est-ce que la musique peut nous faire vivre, parce que c'est ça la musique, c'est ça l'objectif aussi de faire vivre des émotions, de faire partie de certains moments de notre vie. Tu sais, je sais pas si c'est ça pour vous, mais moi il y a des chansons qui ont marqué justement des moments vraiment précis de ma vie, ou même des, pas juste des chansons, mais même des albums complets, justement.
Ouais, qui te rattachent à une année ou à un événement où tu l'as découvert. Ouais, vraiment
100%. Puis, bon, nouvel EP apparaître au printemps 2026. Est-ce que, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, justement, dans ce nouveau EP? Qu'est-ce qui...
C'est assez... Je pense qu'on ne se fie pas, justement, à un style, malgré tout, même si c'est un EP. Donc, c'est un EP qui contient six wow, tu vois? six chansons. Puis... même s'il y a comme une ligne directrice qui donne une certaine forme de cohésion par rapport au projet, on est quand même allé à travers différentes couleurs, différentes textures. Fait que comme Charles disait, je pense que clairement, il y a un style général qui est un peu plus folk, où est-ce que les cordes, les guitares sont beaucoup, beaucoup plus mises de l'avant.
Moins de synth, plus de guitare. Ouais. Ça résume bien, je pense.
Je pense qu'il n'y a même pas de synth sur une... Ouais.
Une pièce, peut-être. Une,
ouais. Ah ouais, mais c'est comme, je trouve ça intéressant, c'est un peu un... Je trouve un retour à comme quelque chose de plus d'un son un peu plus moins comme justement électronique puis plus
organique,
plus organique là.
Quelque chose de plus organique effectivement. Ouais. C'est super bien dit. Ouais.
Puis je trouve même grosse comparaison là, mais même il y a Gabouchard qui va paraître un album de vendredi justement. Puis il y a vraiment cette différence là aussi de son comme vraiment moins de synth puis vraiment plus de musique de guitare acoustique, un son plus c'est ça plus
C'est plus raw. C'est, ouais. Il y a quelque chose de... Je pense qu'aussi, il y avait un aspect où est-ce qu'on voulait être peut-être inconsciemment plus intime avec la musique. Il y a quelque chose de beaucoup plus... tu te présentes beaucoup plus nu aussi. Donc, c'est le fun des scènes, c'est le fun des effets, justement, ouais, qui couvrent la voix puis qui donnent une vibe ou une ambiance. Mais le fait d'être, disons, très dénudé avec une corde, des cordes étant une guitare, une voix, un peu de percussion, et quelque chose qui donne vraiment une autre ambiance, une autre texture.
Puis, vas-y.
Mais au début, le EP, ça se voulait un peu une parenthèse entre un deuxième album et un prochain album encore. Fait qu'on voulait aller ailleurs, puis un autre album plus tard va sûrement être plus dans la continuité du deuxième, de Cafes and Crimes of This Building.
Comment vous co-créez les quatre ensemble? T'sais, vous avez nommé justement qu'il y a différentes. Une nuance musicale dans le prochain EP. Est-ce que vous considérez que c'est un peu la touche des quatre d'entre vous qui ont toutes mixé vos différentes influences puis vos intérêts musicaux pour faire quelque chose de super complémentaire dans le EP?
Sur ce projet-là, Charles et moi avons été les principaux justement concepteurs, disons. Puis c'est justement une des raisons pour lesquelles on a pris du recul avec le projet. C'est qu'on a changé la structure interne du band, où est-ce qu'au final, on travaille beaucoup plus à quatre après ce projet-là. Donc, les gars nous ont beaucoup aidés par rapport à justement des retours sur le son, des conseils. Puis heureusement qu'ils ont été là, parce que sinon, le son du EP aurait, je pense, était beaucoup moins intéressant. Mais c'est une structure sur laquelle on est encore en apprentissage. Donc, à quatre, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose qu'on travaille en ce moment, qui est super intéressante, qui est vraiment différente de la manière justement avec laquelle on a travaillé par avant, mais qui permet justement de trouver des nouveaux sons, puis qui permet une genre de communication super intéressante par rapport à comment concevoir une pièce. On n'a pas de recette gagnante encore, mais...
Non, ben c'est que dans le futur, en fait, on va plus les laisser intégrer leur part, composer leur partie musicale à partir d'une base qu'on va faire un peu plus à deux, mais mettons, la bass... Avant, ben, ça a toujours été Ali qui la composait. Ben là, Matt va créer ses propres parts.
Ouais. Ben, je trouve ça beau parce que vous faites quand même de la musique depuis super longtemps. Puis je trouve ça beau de voir de pas nécessairement rester dans une formule dans laquelle on est confortable. Puis de voir comment est-ce qu'on je peux de toujours se positionner en élève, justement, dans sa pratique artistique, de comment est-ce que je peux m'élever, comment est-ce que je peux grandir, puis apprendre, justement, de nouvelles choses, puis sortir, justement, de ma zone de confort pour, comme, aller ailleurs dans ma pratique artistique.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Ben, ça apporte d'autres forces aussi. Frag, avec toutes les textures de son, Matt, tout ce qu'il connaît de l'industrie de la musique, fait que ça permet d'améliorer le projet en général.
Exact, ouais.
Et là, le 15 février, donc le dimanche 15 février, vous serez à l'Antibar et spectacle dans le cadre du Fuck Off pour une vitrine de 20 minutes. Comment est-ce que vous sentez de retourner sur scène?
Super excité. On a travaillé le set justement cette semaine avec les gars. Puis c'est la première fois qu'on fait ce genre de show aussi. Donc c'est super intense, super court. Écoute, je pense que ça va être... On a choisi justement des pièces qui rentrent un peu plus, qui sont un peu plus... qui bougent plus, qui demandent un peu plus d'énergie, ce qui fait en sorte que le set va être moins mellow, disons. Ça va être un peu plus impact.
Nice. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à entendre justement des nouvelles chansons qui sont abonnées?
Des nouvelles chansons.
Yes! Let's go! Merci grandement d'être venu me voir. Vous avez apporté, là, les auditeurs ne le voient pas, mais vous allez l'entendre dans quelques instants. Vous avez apporté vos quelques instruments pour faire une performance acoustique en direct du studio de Shiz. Quelle chanson vous allez nous interpréter? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? mot avant de commencer?
Ben, la chanson s'appelle Stray Cat. C'est la chanson qui ouvre le EP. Et puis, c'est la plus relaxe, je dirais. Fait qu'elle est plus facile à arranger pour jouer en acoustique.
Est-ce que vous avez des chats?
Non.
Non, j'ai un chien.
Mais j'aime beaucoup les chats.
On salue les chats et ton chien. Donc, on écoute une version acoustique en direct du studio de Shiz 94.3, la chanson Stray Cat de Thunderloom.
Of an ancient time, glimpses of what I've left behind. Chasing these days starts to make me feel sick. Feels like I can find the magic. Try to grow, to become real, but fear she knows all I can feel. Creepers talking nonsense, they so hard to find, lurking in the depths of my mind. Fascinating how they make things look so wrong, for I thought I was right all along. I tried to grow, to become real, she knows all I can feel. Rather stay inside than speak, coping with every week. Feeling strangely good, even though I know I shouldn't. Procrastination is my new addiction. What a mess.
Yes, c'était Stray Cat de Thunderloom. Ben pour entendu pour la première fois, comme une petite exclusivité là, pour vous, chers auditeurs, auditrices. Puis si vous voulez en entendre plus, je vous invite au Fuck Off à la vitrine de Thunderloom qui a lieu le dimanche 15 février à l'Antibar et spectacle. Et sinon, ben, pour être à l'affût de tout ce qui se passe avec Thunderloom, où est-ce qu'on peut vous suivre?
Où est-ce qu'on peut nous suivre?
Ouais.
Partout.
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 Où vous voulez.
Envoyez-nous un mail, on va vous envoyer un petit bonjour. Non, en vrai, Facebook, Instagram, Spotify, tous les endroits.
Yes. Hey, merci grandement à vous deux, puis j'ai très hâte d'entendre le reste du EP qui s'annonce vraiment très bon.
Merci, merci beaucoup.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire, mais au retour, on va continuer à jaser avec des super invités. On va parler du forum sur la radicalité des luttes qui a lieu du 29 janvier au 31 janvier 2026. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur le zone de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Échos de la Résidence, le tout nouveau podcast présenté en collaboration avec le service de résidence de l'Université Laval et la radio Chiz 94.3 FM. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui vivent, travaillent et font battre le cœur de nos résidents et résidentes. Les Échos de la Résidence avec Narcisse, tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Fans de l'ombre vous invite à découvrir des autrices qu'on a trop souvent mises de côté dans l'histoire littéraire.
Chaque semaine, partez à la rencontre d'une autrice méconnue, oubliée, ayant écrit dans les marges ou n'ayant laissé pratiquement aucune trace.
Au programme, des recherches littéraires, des recommandations de lecture, un segment musical et des invités sporadiques.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes des Chiz 94.3.
Bisous!
Ouf! OK, on vient clairement d'arriver quelque part.
Préparez-vous à explorer.
T'as entendu ça? Nouvelle destination, nouvelle musique.
Accès autorisé.
On est arrivé où exactement?
Dans un monde qui te transporte depuis 10 ans et chaque nouveauté est une nouvelle escale.
Le monde d'Éric Arsenault, 10 ans. Les dimanches entre 19h et 21h à Chiz 94.3.
Vendredi le 30 janvier, rejoignez-nous lors du vernissage de l'exposition collective Murmure de l'invisible dans le cadre de la 27e édition du Mois Multi. Au programme, des entrevues avec Pierre et Marie, Les, Théâtre Rue d'Ingénierie, E27 Musique Nouvelle et Morgane Baffier. Chérie, j'arrive au Mois Multi, ce vendredi dès 16h en direct du café d'Ex-Muro et sur les ondes de Chiz 94.3.
Anne Laurie Daté, âge inconnu, Vadsø, Norvège, 16 février 1621. Accusée de pratiquer la sorcellerie, a été soumise à l'épreuve de l'eau, hors d'Ali, et a flotté. Jugée coupable de pratiquer la sorcellerie, condamnée à la mort par le feu sur le bûcher.
Premier acte, en collaboration avec le Mois Multi présente, Féminicide, une histoire mondiale. Une production du Théâtre d'Olympie, d'après l'ouvrage dirigé par Christelle Tarot, du 27 janvier au 7 février 2026. Pour les billets, visitez premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Le festival Le Focoff est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présentée par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au focoff.com.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés, mais vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du rock Ampisson a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
C'était un extrait de la chanson « Méditation » de Virginie Reed. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour poursuivre l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la deuxième édition du Forum sur la radicalité des luttes. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Marie-Lou Latour, qui est coordonnatrice aux affaires environnementales et sociales de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales ici à l'Université Laval. Marie-Lou, qui est également la coordonnatrice de cette année de la deuxième édition du Forum sur la radicalité des luttes. Salut, salut!
Allô!
Oh, t'as un peu, faudrait que j'ouvre ton micro, c'est mieux.
Allô, allô?
Ah,
youpi,
voilà!
Bonjour!
Alors, deuxième édition du Forum sur la radicalité des luttes qui a lieu du 29 au 31 janvier. Ça commence dès demain au Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier. Il y a aussi des activités qui se passent à l'Université Laval et au Centre Hub Créatif. J'aime ça qu'on retourne un peu en arrière, là, okay. Parce que c'est la deuxième édition du Forum. Comment est né le désir de créer ce Forum-là? C'est quoi son objectif? Puis à quel besoin est-ce que celui-ci répond?
Ouais. Mais dans le fond, le forum, la première édition, c'était l'année passée. Ça s'est passé pas dans les mêmes dates. Puis ça, c'était pas moi qui étais en charge de l'organisation exactement du forum, mais c'est des amis, fait qu'ils m'ont bien raconté. Donc, je peux essayer de passer un peu ce qu'ils m'ont dit, puis après d'amener un peu ma touche dans le forum que j'ai amené. Fait que le forum, ça venait d'une idée de vouloir parler du terme de la radicalité, principalement. Parce que beaucoup d'étudiants ont à cœur les luttes sociales, la justice sociale, prendre soin de l'environnement, le féminisme et tout ça, l'antiracisme. Mais souvent, soit restent un peu frileux ou ne savaient pas comment faire finalement pour s'embarquer dans ces luttes-là. Puis le terme radical ou les luttes radicales permettent de vraiment aller au profond des choses, puis nous permettent d'avoir un sentiment de puissance qui revient, de s'informer sur toutes sortes de luttes. Fait que je pense que ça venait de ça, de vouloir transmettre, montrer des exemples de lutte radicale pour les étudiants, mais aussi d'élargir aussi à toute la population, finalement, de la ville de Québec. Comme ça, on a des discussions plus intéressantes et tout ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça qui me l'avait un peu transmis. Puis ben, je me suis pas mal inscrite dans cette lignée-là pour cette année directement. Je trouvais que c'était un bel événement. J'y avais participé moi-même l'année passée, puis j'avais trippé ma vie. Fait que j'étais comme vraiment honorée de pouvoir essayer de mettre ça sur pied cette année de nouveau.
C'est ça. C'est l'année dernière, le forum avait pris forme de panel avec suivi de formations, de conférences ou même d'ateliers. C'est quoi la touche que tu as voulu apporter cette année? Comment est-ce que vous avez bonifié l'offre tout en restant justement dans l'énergie justement du forum puis de la radicalité des luttes?
Bien, c'est ça, l'année passée, ça avait justement une structure un peu plus formelle, je dirais en gros guillemets, parce que c'était pas tant dans les lignes, mais justement avec des panels où t'as un animateur qui pose des questions, des présentations un peu plus longues, de la participation du public qui était là, surtout dans les petits ateliers. Mais pour moi, je trouvais que ça avait manqué justement de plus nous mettre en contact avec des gens, et faire comme vraiment que les participants soient immergés dans les activités. Puis c'est ça que j'ai essayé d'amener finalement cette année.
Et non moins d'avoir comme le rapport de, t'es comme expert versus personne qui vient apprendre,
exact.
Mais de voir comment est-ce que tout le monde ensemble, on peut apprendre des uns et des autres,
exact.
Au final.
Oui. Oui, c'est ça, parce que c'est intéressant d'écouter des gens. Puis j'ai gardé ce petit format-là pour principalement la journée du samedi. Donc, il y a quand même deux panels, des ateliers, parce que ça peut amener quelque chose de très intéressant. Mais justement, au Centre Jacques-Cartier, donc le jeudi puis le vendredi, on a décidé de sortir de ça, d'expérimenter un peu, de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, par exemple, le jeudi soir, ça va être un atelier où on a quatre invités différents qui vont nous parler d'alternatives aux capitalistes qui ont vécu, puis à travers différents moyens. Ça peut être juste la discussion, d'autres, on va faire de l'art, on me dit, peut-être un peu de cuisine même. Bien, on va expérimenter ça tout le monde ensemble. OK, mais c'est quoi l'alternative au capitalisme finalement? Donc, avoir quand même des personnes qui nous transmettent leur expérience, mais ensemble, se l'approprier un peu plus finalement. Fait que ça avait été ça un peu que j'ai décidé d'amener, de changer un peu finalement le format de la transmission des savoirs, mettons.
Ouais. Parce qu'il y a tellement de manières justement de transmettre les savoirs, puis il n'y a pas juste la formule académique,
exact.
Universitaire, mais tu sais, il y a plein de gens qui construisent justement leur expertise à travers les années, puis on peut apprendre vraiment des uns et des autres, et pas justement en écoutant, mais en faisant aussi ensemble. Fait que je trouve que l'événement de jeudi permet vraiment ça aussi. Là.
Ouais. Puis le vendredi, ça va être... c'est dans cette même lignée-là, même un peu plus éclaté, je dirais. Là, on est allé dans la déconstruction totale, quasiment. Donc, on est inspiration feu de camp. Donc, on voulait recréer un peu cette ambiance-là. On a une scénographe qui va faire un décor, un jeu de lumière et tout ça. On va être en doudou, il y aura des s'mores et tout. Une personne qui va être là pour faire du chant, du conte, puis on va parler du soin radical à travers cette ambiance de feu de camp là. Mm. Puis c'est ça, je trouvais ça intéressant d'amener que ces moments là aussi de qui sont moins chemin un format académique, parce que ben c'est pas tout le monde non plus qui écoute bien, qui est capable de bien prendre les informations, ou que ça fonctionne le mieux pour eux un format très académique, genre un peu plus passif. Fait que je sais comment ben ça va permettre à d'autres personnes finalement d'avoir quelque chose qui est plus à l'aise, fait que d'avoir un peu cette diversité là de format. Je trouvais ça quand même intéressant, ouais, pour amener ces discussions là qui sont full importantes à avoir.
Définitivement. Puis je trouve qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans justement les luttes radicales, puis dans le forum que vous proposez, c'est l'intersectionnalité, ouais, des luttes aussi, parce que tu sais, des fois, comme tu l'as nommé, il y a les combats féministes, il y a les, ouais, combats environnementaux, les combats antiracistes, mais au final, ils ne font tous, oui, qu'un, tu sais, puis il faut comme tous s'unir justement dans ces différentes, ouais, luttes-là qui sont toutes interreliées au final.
Exact. Oui, puis c'est un peu ça aussi que le terme radicalité permet d'avoir accès, donc s'informer là-dessus, c'est de pas rester en surface finalement, de voir, ah, OK, oui, la planète se fait détruire, oui, il y a des féminicides ou quoi que ça, mais de voir, OK, mais d'où viennent ces enjeux-là? Puis effectivement, quand tu remontes, quand tu te mets à creuser un petit peu, généralement, ça ressort, on tombe sur des systèmes qui sont plus larges que sociétal, puis qui vont tous liés ensemble. Fait qu'on réalise que c'est aussi en se mettant ensemble, puis en luttant sur chacun des fronts, qu'on va finalement arriver à comme se créer une société qui est globalement plus égalitaire. On peut pas avoir une société qui une planète qui est plus en bonne santé sans avoir de justice sociale non plus. Donc tout est lié ensemble.
Ouais, puis unis aussi, oui, là, également. Si on se transporte dans la journée du samedi, oui, ça se passe à l'Université Laval, plus précisément au pavillon Charles de Coninck. Et là, c'est vraiment plus, ben, les deux premiers événements que tu te parlais, c'était plus en soirée, ouais, donc de 19h à 21h, 21h30. Et là, ben, c'est toute la journée à partir de 9h le matin. Ouais. Fait qu'on peut peut-être décortiquer ensemble, là, okay, c'est qui les différents invités, ouais, les sujets qui vont être abordés également.
100%. Fait que c'est quand même une grosse journée, là, le samedi. On a beaucoup, beaucoup d'activités, mais je pense que ça va être trippant. Et donc, le premier panel, c'est ça. Ça commence à 9h, donc faut se lever tôt, j'en suis consciente, mais honnêtement, ça en vaut genre vraiment, vraiment la peine. C'est sûr, l'idée, c'est de rassembler justement des gens qui ont lutté dans le domaine de la... Ben, dans la sphère de la décolonisation. Fait que j'ai appelé le panel sur les luttes décoloniales locales et transnationales. Donc, il y a principalement un focus sur la décolonisation sur le territoire qu'on appelle le Québec ou l'île de la Grande Tortue, peu importe. Donc, vraiment, les luttes autochtones. Fait qu'on a beaucoup d'invités, par exemple, Pierre-Auros Tremblay, qui est un Innu d'Essipit, qui est aussi professeur à l'Université d'Ottawa, puis il a fait toute sa carrière académique, finalement, sur les questions de la décolonisation. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça englobe, finalement? On a sinon Xan Choquette aussi, qui est un militant là, dans le FRAP, notamment, mais aussi qui fait sa maîtrise en études autochtones et tout ça. Donc, on a un beau rassemblement de personnes qui vont nous parler des luttes décoloniales à la fois historique et très actuel, parce que cet été, cette année, ça a été très fort à ce niveau-là avec le projet de loi 97.
100%.
Donc, ça va être vraiment fascinant. Sinon, d'autres invités qu'il y a aussi sur le panel, on a Nalwen Hamidi, qui est, elle, professeure à l'Université Saint-Paul, puis qui s'intéresse plus particulièrement aux questions coloniales, mais en Algérie. Fait qu'il va nous amener cette vision-là transnationale pour voir, ben oui, c'est important de décoloniser le Québec, c'est des contextes totalement différents, mais il y a quand même des ressemblances, comment on peut faire ça, tout le monde ensemble. Albert Lalonde, de son côté, c'est un militant allochtone, donc ça va être intéressant d'avoir sa vision, puis qui était beaucoup en support dans des blocages, des trucs comme ça. Puis finalement, on a Michael Paul Quachu. Et lui qui est un gardien du territoire et un artiste, donc qui a vraiment les pieds là, en plein sur le terrain. Et donc, c'est ça. Je pense que ça va être un beau mix de tout ça. On a beaucoup d'invités aussi pour ce premier panel, mais ça va être fascinant.
Donc ça, c'est de 9h à 10h30, ouais, le matin. Au local, plus précisément, 11h57.
Yes.
Sinon, la journée se poursuit là, de comme 10h45 à 11h45, ouais, avec un échange sur le désarmement et l'éco-sabotage.
Oui. Fait que là, dans le fond, à ce moment-là, on a un bloc d'ateliers. Donc, on peut choisir entre les trois ateliers qui vont, nice, avoir lieu. Fait que là, ça va être un peu déchirant aussi. Mais...
Oui, c'est ça. Faut faire des choix.
Ouais, mais bon, au moins, tout le monde peut trouver un petit peu à son jeu. Fait que, ouais, on a l'échange sur l'éco-sabotage principalement. Donc, c'est quoi comme tactique l'éco-sabotage? En quoi ça sert? Dans quel contexte on l'utilise? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte si on veut faire de l'éco-sabotage et tout ça? Donc, ça va être principalement les gros sujets. Donc, si la lutte plus environnementale et justice sociale là, vous interpelle, ça peut être un vraiment cool atelier. Puis aller un peu, de pousser aussi nos limites de lutte. Ensuite, on a aussi un atelier sur le numérique libre. Donc, les Google, Facebook de ce monde sont comme partout dans nos luttes aussi. Souvent, on a besoin d'Instagram pour se contacter, de Google, mais comment... Puis on sait à la fois que c'est pas des compagnies qu'on supporte tant que ça, finalement, dans le fond même de l'histoire. Fait que comment s'en défaire?
Comment s'organiser autrement, tu sais, puis d'arrêter d'être codépendant justement des plateformes puis des réseaux sociaux pour s'organiser entre nous.
Exact, parce qu'en ce moment, les milieux militants sont beaucoup dessus, puis on voit toutes les failles qu'il y a. Fait que, puis moi, je pourrais pas vous dire c'est quoi les solutions. J'en ai aucune idée, fait que je trouve que l'atelier, ça va être pertinent parce que c'est le projet collectif qui est un organisme qui le donne, puis eux, ils ont mis en place des plateformes, ils travaillent beaucoup là-dessus, donc je pense que ça va être quand même vraiment intéressant. Puis sinon, on a un peu un classique du RGF qui va nous parler des mouvements féministes et des gens actuels qui n'arrêtent jamais, finalement. Le féminisme, il faut continuer. Donc, ça va être intéressant d'avoir un peu leur vision aussi de ces femmes-là qui sont sur le plancher à tous les jours pour garder les acquis puis essayer de promouvoir, de continuer la lutte féministe.
La deuxième partie va être après le dîner, donc de 13h30 à 15h. Et là, c'est un panel sur les expériences d'autogestion collective au Québec. Puis vous recevez... plein de gens, vraiment, ça va être vraiment intéressant, là. Autant des gens qui ont bâti le bâtiment 7 à Montréal, vous avez des gens aussi du collectif Agora qui vont parler du garage municipal, l'expérience de Lilo Fleury aussi, qui est quand même un moment vraiment important là, dans les luttes sociales ici à Québec. Vraiment, ça va être très intéressant.
Ah oui, j'ai vraiment hâte à ce panel-là. C'est un peu comme mon petit bébé parce que je trouve que le sujet de l'autogestion collective, c'est tellement intéressant. Puis justement, j'ai découvert un peu le bâtiment 7. Je trouve ça fascinant qu'est-ce qu'ils veulent faire au garage municipal, aussi un centre social autogéré. Je trouve que c'est vraiment pouvoir reprendre finalement un pouvoir dans nos environnements. Donc, de les mettre en discussion, finalement, sur le panel, ben, ça va être intéressant pour apprendre d'eux. Puis, effectivement, Lilo Fleury, personnellement, moi, je connaissais pas beaucoup ça jusqu'à l'année passée où, comme des vieux militants m'en ont parlé. Puis, c'est peu connu et c'est fascinant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont juste pris un territoire, puis ils en ont fait des jardins, des spectacles d'art, des bouffes collectives, des manifestations et tout ça.
Ouais, puis c'est important de se rappeler des luttes passées, puis des militants qui étaient là avant, justement, avant nous, puis de voir qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été bâti, qu'est-ce qui a été fait pour comme, s'en inspirer puis justement poursuivre cette lignée de militantisme local.
Oui, parce que c'est facile d'avoir l'impression de tout le temps réinventer la roue. Puis il y a eu quand même un gros... Bien, il y a eu plusieurs crashs, des coupures peut-être un peu avec la COVID, d'autres choses de même, que la transmission finalement des savoirs militants se fait pas tant bien que ça.
Oui, puis l'aspect de communauté aussi qui s'est un peu perdu, justement en étant seul chez soi, en étant isolé. Mais là, on est comme encore dans un moment où on doit se reconstruire, justement, en tant que collectivité, de se réunir et de se réunir aussi, là, les deux les deux phrases peuvent être bonnes, vraiment, là. Puis de voir justement des projets comme ça d'autogestion, puis de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui veut être fait aussi localement, ça peut être vraiment inspirant.
Ah, trippant. Oui, puis par rapport à ça, t'as un petit truc qui est pas dans la programmation du forum, mais moi, pour y avoir assisté l'année passée, le truc que j'ai le plus aimé, c'était justement rencontrer des gens. Ça a été discuté. C'est pour ça qu'on a mis une grande heure de dîner, parce que ça avait été un moment informel de juste parler avec plein de gens. Puis j'espère qu'on pourra retrouver ça un peu partout aussi dans le forum. Fait que juste à ce niveau-là, d'être mis avec des gens qui finalement ont les mêmes valeurs que toi, qui ont des buts similaires, parfois un peu différents, c'est sûr, mais c'est intéressant de pouvoir discuter avec eux, puis on peut rêver ensemble de s'organiser. Donc ça, c'est un petit élément aussi du forum qui est comme à prendre en compte, qui est, en tout cas, moi, j'avais trouvé vraiment enrichissant.
Puis le dernier bloc d'atelier va encore avoir des choix déchirants à faire. Là, vous proposez trois autres blocs de formation.
Oui, exact. Fait qu'on a le premier de la part du CLAC, là, la convergence des luttes anticapitalistes. Oui, ça marche. Qui donne un atelier sur les horizons anti-autoritaires. Donc, ça, c'est plus l'idée un peu de... Bien, on veut se défaire des systèmes de hiérarchie. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. C'est pas très juste socialement, c'est pas égalitaire. Mais comment on fait ça? On est dans une société très hiérarchique. Nos réflexes sont à avoir de l'autorité. Donc, l'atelier veut être très pratique. Puis dans nos milieux, comment nous-mêmes s'assurer d'être anti-autoritaire? Mmh. Fait que je pense que c'est des réflexions qui sont pertinentes si on veut justement améliorer nos communautés. Ensuite, on en a un atelier sur sur l'antifascisme à Québec, qui est comme, quand même une lutte très importante, assurer que nos communautés sont respectées, puis qu'on laisse pas de place à l'extrême droite, qui, malheureusement, prend de plus en plus d'espace. Donc, ça va être intéressant d'avoir un peu genre un retour en arrière de, OK, mais comment on lutte contre les fascistes de ce monde et comment on fait ça dans la sécurité, puis pourquoi c'est tellement important de s'en assurer. Et finalement, un dernier atelier un peu plus dans la réflexion, c'est penser l'autodétermination effective des premiers peuples. Donc, il sera donné de nouveau par Pierrot Rostremblay et Nalouel Hamidi, qui étaient aussi dans le premier panel. Donc, ça va être très intéressant parce que je pense que c'est des questions qui nous habitent tous. Moi, je suis une personne allochtone. J'ai hâte de pouvoir réfléchir à ça parce que si on veut construire un monde meilleur, ben, il faut penser à ces questions-là aussi. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas comment on va choisir.
Vous allez devoir faire des choix, mais si vous voulez justement voir tout, là, on a nommé beaucoup de choses, mais tout ça là, est vraiment bien décrit. Vous avez fait un événement Facebook, justement sur les différentes plateformes de l'AESS, où juste vous écrivez panel sur la radicalité, forum sur la radicalité des luttes, pardon. Vous pouvez vraiment voir là, l'ensemble de la programmation là, dans la description de l'événement. Et le 31 janvier, l'événement se termine comme une fête, comme acte de résistance. La sauterie enragée, c'est une soirée de clôture justement du forum, puis vous allez avoir le projet Astar Ponceau qui va être là.
Ça va être très hip-hop. En plus, c'est une belle surprise, là. Je sais pas, en tout cas, on a eu quelques enjeux pour avoir un groupe finalement, mais on a réussi à pouvoir parler avec Astar Ponceau, puis ils sont vraiment dents de venir, donc ça va être trippant. Puis c'était vraiment, tu l'as très bien décrit, là, c'est finir en fêtant, en résistant, parce qu'on peut pas juste non plus être dans la réflexion. Il faut bouger, il faut avoir du fun, comme ça va nous permettre de continuer.
Puis la fête, justement, tu sais, les espaces de fête, là, vraiment de célébration, d'être ensemble, ça, en tout cas, dans ce que j'en vois, ça fait partie aussi, même dans nos passés, des formations là, de lutte aussi, d'avoir des espaces pour se rassembler, pour faire la fête, être ensemble. Fait que vraiment,
c'est sûr, ça crée du lien. Puis c'est ça, on finit en dansant, on aime ça. Donc je pense que ça va être une belle activité. Ça, c'est deux de mes amis qui sont plus penchés sur ce côté-là, donc qui m'ont aidé. Il y a plein de gens qui m'ont aidé dans toute l'organisation. Donc, puis tout est gratuit aussi, ce qui est quand même extraordinaire. T'es un show gratuit, c'est rare, puis autant de formations aussi. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Ça vous tente. Je pense qu'il y a au moins une petite affaire pour tout le monde là, qu'il pourrait trouver. Puis sinon, ça va sortir votre jour de confort, puis ça peut être pertinent aussi.
Définitivement. Je trouve vraiment que c'est un événement c'est beaucoup d'organisation. Clairement, je vois vraiment tout le travail là, qui a été fait pour organiser un événement autant d'envergure, mais justement qui amène les gens à aller à la rencontre des uns des autres, à se remettre en question aussi, à peut-être sortir de nos carcans d'idées, puis à peut-être s'ouvrir sur d'autres manières de penser. Fait que vraiment, super belle initiative, puis très heureuse de voir que c'est de retour encore une fois cette année. Je vous rappelle que si vous voulez avoir tous les détails de l'événement, vous avez qu'à taper là, dans les réseaux sociaux, forum sur la radicalité des luttes, ou peut-être même aller directement sur le site de l'AESS également.
Peut-être, les pages Facebook AESS du Laval, généralement, vous arrivez à le trouver. On a le logo avec le petit dragon rouge, puis vous descendez un peu à l'événement Facebook. Sinon, sur notre Instagram aussi, toutes les informations sont là.
Puis j'ai vu aussi tout à l'heure sur vos réseaux sociaux qu'il y a un des comités justement de l'AESS qui est en recrutement, qu'il y a une rencontre justement la semaine prochaine. Oui. Peux-tu nous en dire quelques mots pour finir?
Oui, bien sûr. Puis ça tombe bien, ça c'est en plein dans les lignes du forum, là, mais c'est le comité mobilisation. Donc c'est n'importe qui, ça doit être des membres de notre asso, donc il faut être dans la faculté de sciences sociales là, pour y participer. Mais si vous avez à cœur justement essayer de rendre notre campus universitaire, notre faculté ou même vos programmes un peu plus à votre image, de comme lutter pour la salarisation des stages, c'est beaucoup dans nos causes, mais un peu tout et n'importe quoi, on veut. On a aussi des peurs un peu contre des...